Bonjour, nous sommes sur Allegre FM 93.1. Nous sommes mardi matin à 11h. Nous sommes à nouveau en direct après le Covid, c'est une vraie joie. Et ce matin, nous avons un invité tout à fait prestigieux que je suis extrêmement content de recevoir, Jacques Pilet, qui est le Hubert Boeuf-Meury de la presse suisse, qui est un géant des journaux suisses, qui a fondé un certain nombre de journaux, sous toutes les formes, du quotidien, de l'hebdomadaire, du mensuel, jusqu'à un pure player actuellement, et qui donc vient de livrer un livre d'entretien qui s'appelle « Journaliste, le souffle de l'histoire ». Donc Jacques Pilet, journaliste, le souffle de l'histoire, entretien avec Jacques Pauget, qui vient de paraître. Salut Jacques et merci d'être venu, c'est une pure merveille de te recevoir ici, dans notre radio libre.
Merci.
Et donc ce matin, j'étais un peu en avance, donc j'étais boire un café, et la une du Parisien Libéré, qui est le journal qu'on lit ici au café le matin, était très sexy. Elle avait en titre « La dérive des écolos radicaux ». À côté de la grosse photo sur le mondial, il faut encore dérusher le mondial de foot, mais donc il y avait deux pleins de pages sur la dérive des écolos radicaux, ce qui peut nous rappeler notre jeunesse, enfin tu vois, qui me rappelle une affiche à Lausanne, puisque tu viens de Lausanne, dont le texte était « Notre candidat n'a trouvé de place sur aucune liste », et c'était une représentation de Karl Marx. Et c'était la Ligue révolutionnaire, les trotskistes, qui avaient affiché ça partout. Et comme tu le racontes dans ton livre, ils avaient une publication, par exemple, qui était... bien vendu, qui était diffusé, qui tirait à de nombreux exemplaires. Ils avaient de nombreux militants. Dans les années 70, c'était extrêmement présent. Et aujourd'hui, c'est les écolos. Et il y a un supplément sur Paris, dans le Parisien Libéré. Il y a deux formules. Il y a une formule Île-de-France, qui est très intéressante parce qu'elle donne les résultats de toutes les équipes de football, y compris des plus petites. Donc on a un travail de localiste, et puis aussi tous les faits divers, tout ça, enfin c'est très très fouillé, ils ont un réseau extrêmement dense de correspondants, et ils ont un supplément Paris, donc on choisit le supplément qu'on prend, on prend le supplément national ou le supplément parisien. Et dans le supplément Paris, il y a une pleine page du même genre que celle, la double page sur les écolos radicaux, c'est... Anne Hidalgo transforme le bois de Vincennes en Disneyland. Et donc on voit une photo, ça a l'air effrayant comme tout. Il y a un espace vide et ils ont coupé 6 arbres. Et donc il y a le président de la Fédération des naturalistes de je ne sais pas où qui intervient. Donc on est vraiment dans le vécu de la presse. Là on est en plein dedans, quoi. C'est tout à fait ça. Et pour... je propose qu'on fasse une petite visite de ta propre existence que tu racontes ici. Donc tu es né en 1943, tu es suisse roman, donc ta langue est le français, tu es éduqué en français. À la fin de ton adolescence, tu te prends d'une passion pour l'Allemagne, tu vas à Göttingen, donc c'est entre 64 et 67, c'est mentionné. Et en 67, tu deviens localiste, justement, pour le journal de Montreux, qui est la région dans laquelle tu habites. Donc tu deviens localiste. Donc ça, c'est la première chose que tu fais. Ensuite, quand même, après un certain nombre d'années, en 74... tu rentres dans le journal de référence du canton de Vaud qui est 24 heures et tu vas travailler à la télévision suisse dans des émissions qui sont formidables, qui avaient une très forte réputation, y compris à l'export, dans Temps présent et dans Tel quel. Tu vas devenir journaliste, donc tu vas à la fois traiter des sujets locaux et des sujets internationaux. Tu vas même aller en Afrique pour la télévision, etc. Donc tu vas commencer cette... carrière de télévision. Ensuite, tu vas créer en 81 un hebdo qui va s'appeler l'Hebdo, qui va durer 5 ans. Ensuite, un magazine...
Non, l'Hebdo a duré 36 ans.
36 ans, mais tu y seras pendant 5 ans.
Un peu plus, 10 ans.
Après un magazine qui s'appelait Moi, qui travaillait sur la culture au sens large, que je n'ai pas connu, moi, 85-86. Ensuite, le Nouveau Quotidien, en 91, qui va devenir, plus tard, qui s'appellera Le Temps, qui sera le journal de référence pour la Suisse romande. Il y a aussi, donc, tu vas faire des publications qui représentent la Suisse romande et non plus Lausanne. Tu vas représenter tous les cantons francophones de Suisse par rapport à la Suisse allemande aussi, je pense que c'est important. Ensuite, après ce Nouveau Quotidien, tu vas aller dans la direction du Hersan suisse qui s'appelle Ringer. Tu me corrigeras si la comparaison n'est pas bonne, mais je n'arrive pas à savoir si c'est un gentil ou un méchant. Et tu vas traiter tu vas recréer des publications en Hongrie, en Roumanie, en Serbie. Tu as un fort syndrome d'Amérique latine. Là, tu as été beaucoup en Amérique latine. Et donc, tu es représentatif de ta génération, par exemple. Tu as vu Pinochet. Enfin, c'était la tendance qu'on appelait tiers-mondiste, et avec une très forte présence de l'Amérique latine qui vivait sous des dictatures, enfin, qui était l'endroit où la politisation... Ah ben, il y a évidemment Cuba, Che Guevara, etc. Mais donc, c'est l'effet ici de Régis Debray. Donc, la médiologie de Régis Debray, on a ce personnage tout à fait représentatif de la presse aussi. Et pour finir, tu vas faire un pure player le 21 juin 2017 qui existe toujours, qui s'appelle Bon pour la tête. Voilà, ça c'est un résumé rapide de ta carrière. Tu publies aussi un livre sur un événement, mais... sur un meurtre de juifs pendant la guerre qui s'appelle Nazi de Payerne, enfin plus ou moins, donc. Et tu participes à un livre sur l'Europe qui est aussi un de tes sujets de référence. Voilà pour une présentation rapide. Alors si on revient en arrière, oui, est-ce que quels sont les temps forts pour toi? Oui, alors je vais dire aussi, ça c'est très intéressant, il y a quelque chose qui m'a totalement sidéré à la fin, qui m'a écrasé à la fin de ton livre, où je me suis retrouvé dans un... Je me suis bien défini dans le rapport qu'on peut avoir, c'est à la fin du livre, à la page 301-302, tu fais une très belle comparaison avec le poulpe, tu dis que tu t'imagines en poulpe, parce qu'il a plusieurs cerveaux, c'est ça. Il a 9 cerveaux, 3 cœurs, 8 bras, des yeux qui se baladent partout et une intelligence hors d'homme. Et en plus, il fabrique son encre. Un rêve. C'est très, très, très beau passage. Tout le livre aurait dû être écrit comme ça. Et tu nous révèles que tu as pratiqué pendant longtemps un loisir, une activité fort mal vue par les temps qui courent, l'aviation. Que durant quelques décennies, j'ai volé sur de petits avions loués dans les aéroclubs de Lausanne, de la Martinique, de la Guadeloupe et même à Ouagadougou, au Burkina Faso, qui s'appelait la Haute Volta quand j'y suis allé, quand j'étais jeune. Et donc c'est là que j'ai senti que je n'étais qu'un consommateur de presse, moi qui ai toujours écrit dans la presse, dans différents organes. J'étais même rédacteur en chef adjoint d'un journal suisse sur les arts. Mais... Tu as volé au sommet, en fait. Tu as tutoyé les grands de ce monde. Tu as fréquenté des chefs d'État. On voit une photo de toi avec JIAP, donc sur la guerre du Vietnam. Tu défends l'ancien président de la République fédérale allemande. Tu sais de qui tu parles. Enfin, donc tu avais quand même... Et puis en plus, tu étais chaque fois... rédacteur en chef, donc tu avais toujours cette possibilité. Et puis la télévision, enfin tout ça, tu as vraiment tutoyé les puissants. Tandis que moi, je faisais que lire le journal le matin au bistrot. Et qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Donc comment... Tu as commencé par être localier, et puis passé au national, et puis à l'international. Qu'est-ce que tu peux en dire?
Oui, enfin, cette émission s'appelle...
La vie est un roman.
La vie est un roman. Mais bon, lorsqu'on commence un roman, on a quand même une certaine petite idée des péripéties qu'on va y trouver. Et on connaît en général aussi la fin. Mais la vie, c'est pas du tout comme ça. La vie, elle est faite de surprises, de hauts et de bas qu'on maîtrise que très peu. Hein. Et donc, je ne vois pas comme ça, dans ce parcours, une sorte de programme que j'aurais mis en place consciemment, pierre après pierre. Pas du tout. Heureusement, dans la vie, il y a des surprises, il y a des rencontres, il y a des hasards. Et puis, bien sûr, il y a l'envie, la volonté, le plaisir de ce métier que... Vraiment, j'ai dans les tripes, c'est vrai, puisque j'ai commencé très très jeune à le pratiquer, à 16-17 ans. J'écrivais déjà des articles, notamment comme pigiste, dans un journal local, le journal de Montreux, où plus tard je suis devenu localier. Mais oui, ce qu'on peut dire, c'est que j'ai été animé toute ma vie par le désir d'être un journaliste, et un journaliste libre. Un journaliste non formaté, parce que je crois que voilà, un journaliste est utile lorsque il ouvre grand ses yeux et ses oreilles, lorsqu'il est à l'écoute de tous, des puissants et des modestes et des pauvres et des victimes, à l'écoute. Sans préjugés, sans, encore une fois, formatage idéologique. Et je crois que ce défi-là, il peut paraître peut-être banal, évident. Il ne l'est pas. Et je dois dire que si la vie ménage des surprises, elle m'en a ménagé une considérable ces deux dernières années, où pour la première fois, je me suis senti un peu limité dans cette liberté, et il fallait se battre un peu pour voir les choses différemment. Je rappelle quand même que pendant la crise sanitaire, il y avait des politiques extrêmement rigoureuses définies par les autorités d'à peu près tous les pays, et questionner cette politique ou la contester était... considéré comme du complotisme, comme on disait. Et ça, c'est une chose que j'ai très mal ressentie, je dois dire. Non pas que j'ai une argumentation contre les mesures, on peut en discuter, mais au moins discutons-en. Or, dans les médias institutionnels, on a très peu débattu de cette politique. Il y avait la parole qui tombait du pouvoir et il fallait appliquer les consignes, jusque dans sa vie intime, hein, sortir, pas sortir, embrasser ses petits-enfants ou pas, voilà. Donc, c'était pour moi une alerte, si tu veux. Et puis alors, il y a une nouvelle alerte maintenant avec la lecture de la guerre en Ukraine. Alors, c'est tout à fait clair, je trouve cette invasion de l'Ukraine par la Russie scandaleuse, choquante, absurde, néfaste pour les Ukrainiens et pour les Russes. Mais je me pose des questions sur l'histoire, comment on en est arrivé là. Et comme je suis allé en Ukraine en 2015, que j'ai rencontré des gens d'opinions très différentes, que j'ai gardé le contact avec ce pays, notamment à travers la littérature, je m'aperçois que les choses sont très complexes et que ce conflit, il ne surgit pas de nulle part ou d'un soudain accès de folie d'un dictateur. Il y a toute une histoire. Mais parler de cette histoire, c'est suspect. C'est suspect. Non, on nous accuse, lorsqu'on se livre à cet exercice, de chercher des excuses à Poutine, n'est-ce pas ? Ce qui est absurde. J'observe aussi que lorsque on réclame un cessez-le-feu, des négociations, que l'on arrête ces horreurs quotidiennes dans ce pays, lorsqu'on réclame des négociations, on est accusé de défaitisme et de favoriser de nouveau Poutine, ce qui est absurde. Moi, je ne comprends pas très bien ce qui se passe, parce que notamment la gauche a une composante profonde qui est le pacifisme. Enfin, souvenons-nous que jusqu'à l'éclatement de la guerre de 1914, dans les semaines qui ont précédé, où on voyait arriver la guerre de 14-18, la gauche... réclamait la paix, la discussion. Et puis lorsque la guerre a éclaté, on a fait taire ses voix, car il n'y avait qu'une vérité, c'était la vérité officielle, et cela c'était le cas en France, en Allemagne et ailleurs, et on est entré dans 4 ans d'horreur en Europe. Et aujourd'hui, je m'aperçois que des mécanismes un peu semblables se mettent en route, dans la mesure où, lorsqu'on réclame des négociations de paix, on est désigné comme un agent de l'étranger. C'est une chose qui me choque très profondément. Où sont les manifestations pacifistes? Que fait la gauche à cet égard? Et que fait simplement le peuple à cet égard? Pas seulement la gauche. Donc, voilà, ces 2 dernières années ont été pour moi une sorte d'orage hein, qui survient comme ça au bout d'un très long parcours. Il y en a eu d'autres, mais qui n'étaient pas tout à fait de même nature. Celui-ci, il est vraiment général, il s'étend sur toute l'Europe. Je le ressens en Suisse, mais je le ressens aussi en France. Je le ressens aussi en Allemagne. Un peu moins, parce qu'en Allemagne, il y a des voix divergentes sur cette question Ukraine-Russie qui s'expriment ouvertement au Parlement et dans certaines émissions de radio et de télévision des grandes institutions, à la différence de la France. Mais malgré tout, le ton général est le même. Alors, moi qui suis vraiment, encore une fois, attaché à la liberté de penser, différemment parfois, je suis un petit peu effaré. Et puis, je constate aussi que pour l'Europe, ce qui nous arrive est une vraie catastrophe, parce que soudain, ces pays qui, grâce à la proximité de la Russie et aux ressources énergétiques, pouvaient en faire tourner l'industrie, en attendant la relève, bien sûr, des énergies durables, mais qui va prendre encore pas mal d'années et de temps. Entre-temps, nous avons besoin d'énergie fossile, et en nous privant de cette source, puisque c'est nous qui avons, nous, les gouvernements européens, qui ont décrété l'embargo sur le gaz russe, en décrétant cela, on se met dans la dépendance, dans d'autres dépendances, mais des dépendances infiniment plus coûteuses, avec ces transports de gaz de schiste en bateau jusqu'en Europe, à des prix exorbitants. Et nous voilà tout d'un coup dans le sillage forcé des États-Unis qui vendent ce gaz, qui vendent pour des sommes fabuleuses des armements à tous les pays européens, pour les envoyer en Ukraine, mais pour leurs arsenaux propres. Et voilà tout d'un coup cette Europe qui tentait de s'affirmer dans son projet que l'on peut critiquer, les critiquants par tous les bouts, mais il y avait un projet, c'était le projet de la réconciliation après la Deuxième Guerre mondiale, c'était le projet de faciliter les échanges, non seulement commerciaux, mais humains, les échanges de savoir. Ce grand projet, tout d'un coup, il a du plan dans l'aile, parce que nous nous mettons dans la dépendance des États-Unis, dans la vassalisation par rapport aux États-Unis. Alors évidemment, tout cela me secoue fortement, mais me donne encore plus envie de pratiquer ce métier, d'aller voir sur place ce qui se passe, d'écouter les gens, de lire, d'écouter ce qui se dit, et tenter, même modestement, d'animer un peu le débat.
Et malheureusement, tu ne disposes plus d'une équipe extrêmement dynamique et de grands moyens. Parce que ça, tu pourrais faire un périodique quelconque, parce que ça demanderait à être alimenté, ça demanderait à être enrichi d'un tas de choses plus réelles, enfin, d'être argumenté de façon extrêmement développée. Je vais faire juste 2 remarques à propos de ce que tu vis là. Moi, ça m'a fait ça avec les anarchistes en 1914. C'est-à-dire que j'ai essayé de m'intéresser à l'anarchisme français. Et l'anarchisme français meurt en 1914. Et on peut faire le parallèle avec l'anarchisme espagnol, qui sera extrêmement présent et qui va arriver au pouvoir en Espagne. C'est le seul endroit au monde où ça a eu lieu. Mais c'est les mêmes, hein, c'est des gens qui se connaissent entre eux, tout ça. Les anarchistes en général au niveau européen, y compris en Russie. Et ils meurent dans le nationalisme. Ils disparaissent complètement dans le nationalisme en 14. Donc j'ai fait mon deuil de ce genre de choses. En 14, il y a quand même une régression nationaliste. Et l'autre chose, c'est sur la construction de l'Europe. Hegel dit « Les guerres ont lieu quand elles sont nécessaires et devant le sérieux de l'histoire, les bavardages se taisent. » Et ça a renforcé l'Europe. Hein, ça dépend ce que tu appelles l'Europe. Si on a une Europe dirigée contre la Russie, elle est très forte. Hein, c'est l'histoire de l'OTAN, donc effectivement. Et on est quand même, là aussi, le courant de fond, c'est le néolibéralisme. Et on a l'impression de sodomiser les mouches. Quand on parle en dessous du système en général, quand, enfin, la question n'est pas tellement les États-Unis, dans le sens où ça serait là aussi une autre version de Poutine, quoi, quelque chose qui serait un diable, un monstre, je ne sais pas quoi. C'est tout un système. On a, le sentiment qu'on a en lisant ton livre, ça raconte la fin du bloc à l'Est, ça raconte la chute du mur, ça raconte 89, des rapports avec la Tchécoslovaquie, etc. Qu'est-ce qui va arriver? On a un retour des nationalismes, par exemple, la Tchécoslovaquie, et maintenant la Tchéquie et la Slovaquie. Ça paraît assez invraisemblable. Moi qui suis belge, c'est comme s'il y avait trois pays en Belgique, quoi. Ça paraît vraiment aberrant, d'autant plus pour un Suisse. Et j'ai aussi pensé en lisant ton livre, comme c'est difficile de venir d'un petit pays, de trouver une place, parce que les Français, par exemple, ils ont une aspiration à l'universalisme qui est la même que celle des Américains. Hein. J'ai reçu ici un homme qui a écrit un livre sur le côté provoque à droite, là, dans lequel tu es en train de t'enfoncer avec en lisant Valeur actuelle, le côté que la droite est punk maintenant, et c'est vrai, quoi, Bolsonaro, Trump, etc., etc. Et donc, on a... je sais plus ce que je voulais dire.
Alors, j'en profite pour te corriger. Oui, on a le droit de lire Valeurs actuelles sans qu'on bascule dans le camp de la droite. Je pense qu'il faut lire écouter toutes les voix. On a besoin de toutes les voix.
Je sais ce que je voulais dire. Voilà. La gauche a disparu. On la cherche et donc on n'a plus du tout de pensée à gauche. On n'a plus du tout d'articulation à gauche. Voilà. Et avec la pensée, il y avait des provocations, il y avait une façon d'amener les choses, quoi. C'était sans arrêt, quoi. Enfin, c'est la une du journal, quoi. Ouais. C'est ce par quoi j'ai commencé, la une du Parisien.
Le drame de la gauche aujourd'hui, c'est qu'elle ne joue plus ce rôle qu'elle a joué.
Elle n'existe plus. Mmh. Elle s'est convertie au néolibéralisme, elle aussi. Elle a perdu son âme. Et elle est nostalgique. Ce qu'elle veut, c'est conserver, par exemple, le service public en France. Elle se bat pour la conservation de ce qui existe. Mais c'est épouvantable. Tous les trois mois, ils font des choses encore plus dures pour les chômeurs, ils détruisent l'éducation nationale, etc. Et l'hôpital, enfin, on a vu avec la crise. Et en Allemagne aussi, tu parlais de la remise en question de la guerre en Ukraine par les Allemands. D'après les Allemands que je fréquente, sur la question du Covid aussi, il y avait de fortes discussions, beaucoup plus qu'ici, où il n'y a eu aucune discussion non plus. Hein, c'était tout de suite complotiste si on remettait en question la question du Covid, du masque, du vaccin, etc., etc.
Mais sur la question Ukraine, Russie, des répercussions sur nos pays européens, en Allemagne, il y a un débat qui est mené notamment par une députée de Die Linke, Sarah Wagenknecht, qui a une chaîne hebdomadaire sur YouTube, qui s'exprime au Parlement. Il y a un vrai débat. Alors, tu me disais au début de ton intervention, c'est bien dommage, tu n'as plus de troupes, tu n'as plus de grands journaux, etc. Moi, je ne le ressens pas comme ça. Je constate d'abord que les grands journaux institutionnels et les grandes chaînes souffrent d'une certaine désaffection d'audience. Ça reste évidemment massif, mais il y a une certaine lassitude à leur égard qui se manifeste dans les opinions publiques. Et je constate aussi que grâce à la technologie d'aujourd'hui, grâce à Internet, grâce à ces moyens dont nous disposons aujourd'hui, il y a un bouillonnement, certes chaotique, d'opinions qui s'expriment, qui peuvent s'exprimer publiquement, qui n'en avaient pas simplement les moyens techniques autrefois. Donc je pense qu'il y a une discussion. Qui parfois prend des aspects tout à fait absurdes, tout à fait désagréables, mais parfois aussi fertiles. Mais évidemment, on a besoin, face à ce brouhaha, je dirais, on a besoin, je crois, c'est vrai, journalistes qui ont pour métier d'essayer d'y mettre un petit peu d'ordre, de clarté, de mettre
surtout en nourrir en fait en... Ça reste très abstrait, en fait. Par exemple, la perception que j'ai de ce que tu dis, de ce qui se passe en Ukraine, reste très abstraite. Et donc, on devrait pouvoir travailler à la fois en localier, en national et en dossier de fond. Tu vois, par exemple, on prend un parti d'extrême droite ukrainien où les militants se sont engagés dans l'armée ukrainienne et puis que les Russes les ont tous tués dans un endroit où ils étaient enfermés, les ont bombardés et tout. On fait 25 pages d'un dossier de fond sur cette histoire vraiment à fond. À côté de ça, on a une actualité, ce qui est traité d'ailleurs. Il y a quand même, par exemple dans Le Monde, ils ont un certain nombre de correspondants, quoi qu'on puisse en penser du Monde par ailleurs, il y a quand même des articles sur des gens normaux, la vie des gens normaux des deux côtés qui sont assez bien faits et qui sont bien, quoi. Enfin, c'est l'effet...
Tout à fait, il ne faut pas
Wistram, là, tu vois,
tomber vite dans les généralités. Il y a heureusement notamment des envoyés spéciaux, justement, qui font très dignement leur
sur
travail.
Leur terrain.
C'est pas toujours facile.
Ce qui manque, c'est un débat d'idées. Parce qu'il n'y a pas d'idées, il n'y a pas le camp d'en face, quoi. Il n'y a pas un camp en face...
Oui, mais avant de parler du débat d'idées sur cette guerre abominable, pour relater les faits, évidemment, il faut l'engagement de ces envoyés spéciaux, mais il faut bien voir aussi que leur tâche est très difficile, parce que du côté ukrainien, ils sont tout de même très encadrés par les autorités. Ils ne peuvent pas se déplacer n'importe où et parler avec n'importe qui. Il y a comme des limites à leur métier. Et puis, pour savoir ce qui se passe dans le Donbass, c'est très difficile d'y accéder. Les Russes ne laissent y entrer que des journalistes dont ils sont sûrs qu'ils sont de leur bord. C'est très difficile. Alors qu'il serait aussi important de savoir ce qui se passe dans le Donbass, parce que des missiles ukrainiens pleuvent sur le Donbass et font un très grand nombre de victimes, notamment ces derniers jours. C'était le cas depuis 2014, depuis que la guerre, les tensions avec le Donbass, le conflit a commencé en réalité en 2014. Mais actuellement, ces dernières semaines, il y a eu de nombreuses bombes qui sont tombées sur le Donbass et dont on a très très peu parlé. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de correspondants, il y a très peu de correspondants occidentaux dans cette partie du pays. Et puis, il faut aussi s'efforcer de voir la complexité de cette situation. Je vais vous raconter un souvenir tout ou récent, très personnel. J'ai accueilli chez moi une femme ukrainienne avec son fils de 17 ans qui venait de Kharkiv. Et cette femme était l'illustration de cette complexité, parce que c'est une femme russophone qui a appris l'ukrainien à l'école, qui était un petit peu effarée ces dernières années de voir qu'on imposait partout l'usage de l'ukrainien au détriment de sa langue maternelle, le russe. J'imagine le choc, si soudain en Suisse... d'expression française, on nous imposait l'allemand dans les rapports administratifs, etc. Ce serait la rébellion. C'est ce qu'ont subi les populations russophones d'Ukraine. Et puis, cette ville est à 40 km de la frontière russe, ce qui fait que cette population allait très souvent en Russie pour faire des achats, pour le week-end, pour faire du sport. C'était leur voisinage. Et soudain, les bombes russes tombent sur cette ville. C'était l'effroi. Cette femme ne se souciait pas de savoir si elle était pro-Kremlin ou pro-occidentale. C'est le dernier de ses soucis. Une femme modeste qui avait un métier, qui tentait d'élever d'ailleurs seule son fils. Et soudain, les bombes tombent. Et elle a dû s'enfuir et elle s'est retrouvée en Suisse. Elle s'est retrouvée à ma table et nous avons essayé, malgré les barrières linguistiques, d'échanger. Et elle me disait, bien sûr, d'abord son horreur devant cette agression, mais en même temps son déchirement, puisqu'elle est d'une culture russophone. Elle se demande, dans l'Ukraine de demain, lorsque la paix sera revenue, elle finira quand même par venir, comment nous sentirons-nous avec notre culture russe? Est-ce qu'il y aura encore une place pour nous? Ou non? Est-ce qu'il faudrait effacer cette partie de notre histoire et de notre personnalité? C'est une question complexe. Et l'aborder simplement en brandissant une bannière ou une autre, ça ne sert qu'à s'enfoncer dans l'impasse, dans une impasse de guerre et d'oppression.
Écoute, merci. On va faire une petite pause musicale. On va écouter un duo de rappeurs suisses.
C'est comme un châtiment quand elle me met la main au bout. Je chuchote, je suis qu'on n'est pas la drogue des violeuses. Je fais, maintenant que j'ai bu, elle était gâchieuse. Mais 5 minutes, t'as pas de dans mon fut. Ça y est, je suis en route, la première venue, je la culbute. Allez, elle a ma langue lèche, 120 kilos de viande fraîche. Maintenant que bon stress, s'endresse, s'oublie les fuck, la tendresse. J'essaye d'atteindre sa manque, mais sa graisse m'en empêche. Dehors, j'essaye de la prendre sur une Mercedes. Mais les pneus ont pété, après peu, on était chez elle. Jouant le jeu de la paix, si j'avais la queue, on feu, on est fait. Jusqu'au moment où c'est sain. Mon privé de mon air, un peu plus et c'était l'homicide involontaire. J'ai fait minute, et nous mets moi les menottes, t'es tout le tralala. Pour que je suis comme une minette, du coup elle me dit
I'm just a young girl.
Elle me dit j'ai une fantaisie, je lui dis vas-y, je crois que t'es chaude. Et sous son lit, qu'est-ce que tu crois qu'elle me sort?
Oh god! Et la suite c'est que je suis tombé amoureux. Ma chérie, elle m'a brisé le cœur au moins deux.
C'est très bien, y'a pas de lézard. Maintenant que je fais du rap, je veux qu'elle respecte la star. En moi qu'elle ne voie que bosse à la maison qui se marre. Celui qui n'a rien à faire, même si je touche pas un genre. T'as voulu faire un gosse, maintenant faut que tu t'en occupes. T'es y travailler que tu ranges, j'ai même repassé mes fuites. Ma vieille c'est pas la fête, j'ai besoin de mes heures de sommeil. Tout en fumant des très gros pets pour plus penser à la veille. Un homme n'a rien à faire, je trouve ça dévalorisant. Et si des fois je viens en main, c'est parce que je suis sur les dents. Ma vie n'est pas facile, c'est je dois sauver la face. Faire croire à tous mes potes que dans mon art je suis un as. Mais tu pleures?
Mais non.
Allez, va faire les belles connasses. Ensuite, ce chien, elle me parle d'égalité. Que soi-disant, toutes ses copines ont le droit de sortir danser. Fais pas chier, t'as tant de trucs à faire. Laisse-moi regarder mon film, tu risques bien de me déplaire. Macho, mon cul, tu te fous de ma gueule. T'as qu'à aller te plaindre vers le Seigneur qui te file une paire de boules.
Aligre FM 93.1.
Et donc nous sommes sur Aligre FM 93.1 et ce matin je suis avec Jacques Pilet qui vient de sortir un livre d'entretien sur sa carrière et sa vie de journaliste, ce qui s'appelle Journaliste, le souffle de l'histoire, entretien avec Jacques Pauget. Et oui, donc je voulais juste dire au passage, là, bon, dans les années 70, on était très lutte des classes, donc même mes professeurs à l'université étaient marxisants, enfin, ou opposés au marxisme, enfin c'était le lieu où ça se passait. Et je pensais sur la fortune critique d'Internet aujourd'hui, l'aspect foisonnant d'Internet. J'ai le même sentiment, moi, avec la publication, l'invention de l'imprimerie, le protestantisme, par exemple, puisque je parle en Suisse. Et aussi, je pensais, comme j'étais prof à Mulhouse, là, je me suis intéressé, j'ai écrit un livre sur les 100 ans de, ou le 150e anniversaire de l'école. Et je me suis intéressé au mouvement ouvrier sur place, puisque c'était une région textile. Et c'était les typos qui faisaient les journaux, parce qu'ils savaient lire et écrire. Et donc on retrouve la même chose, ils faisaient des fascicules de gauche qui distribuaient clandestinement, c'était très dangereux. Quand il y avait une grève, il arrivait que les militaires prennent le piquet de grève en entier et aillent le fusiller dans une forêt et l'enterrent sur place. Hein. Donc on vient pas d'inventer la violence aujourd'hui. Et donc c'est pour dire que l'Internet, la presse avait la même fonction en fait, tout ce développement de la presse au 19e siècle, toute cette montée, puisque tu es pour moi Monsieur Presse et que tu as créé toute cette presse en Suisse romande jusqu'au bout et que tu animes encore en ce moment un site. Et donc voilà, tu restes très lié à l'actualité, enfin tu vibres en fait avec ce qui se passe en ce moment. On a eu l'affaire du Covid et on a ces rebondissements en Chine par exemple. Est-ce qu'il va y avoir des millions de morts en Chine? Est-ce que ça va se répandre de nouveau mondialement en partant de la Chine? Et puis cette guerre d'Ukraine. Et tu as un journaliste qui écrit sur l'Ukraine dans Bon pour la tête. Tu pourrais peut-être en parler, qui lui a un point de vue tout à fait différent et c'est un peu sulfureux, si j'ai bien compris.
Oui, alors d'abord, il faut dire que ce site, bonpourlatête.com, c'est une association indépendante. Je ne la dirige pas du tout, je suis un des contributeurs. Et puis, nous avons des opinions assez différentes sur certains sujets. Et il y a un journaliste de renommée qui aussi fait une carrière très intéressante dans la presse, Guy Mettant. Lui, disons qu'il est, on peut dire, pro-russe globalement, hein, mais avec toutes sortes de nuances, de réserves, d'argumentations. Mais il se trouve qu'il a des attaches avec la Russie et il s'y rend souvent et il apporte un peu la vision de la Russie. Cela choque évidemment une partie de nos lecteurs qui trouvent par ailleurs des articles qui vont dans un sens tout à fait différent. Nous avons publié des articles violemment critique contre la Russie d'une grande romancière qui vit à Paris, Paulina Dallmayr, qui a écrit un très très beau livre publié chez Grasset, Les Héroïques. Alors on a des voix quand même très très différentes parce que nous voulons justement animer ce débat avec des arguments des uns et des autres. Mais évidemment qu'il y a une tonalité, je dirais, générale, qui est une tonalité critique. Critique sur la manipulation de l'information, critique contre ce qu'appellerait la gangue du conformisme ou la gangue des conformistes, parce qu'il y a aussi un conformisme de droite et un conformisme de gauche. Et on essaye de trouver notre chemin librement entre ces montagnes quelque peu oppressantes.
Mais donc pour toi, ce qui conviendrait, c'est d'avoir une pluralité d'opinion.
C'est cela. Ouais. Et on a besoin de la pluralité d'opinion pour se faire une opinion personnelle propre. Nous ne pouvons pas simplement nous engouffrer dans un courant, nous laisser porter par telle ou telle rivière de propagande et d'influence. Nous sommes des citoyens libres et on doit forger une opinion libre. Et puis bien sûr, après, peut-être se rassembler selon nos affinités, selon nos convictions, mais nous devons rompre avec les catéchismes. Et nous avons eu le catéchisme marxiste très longtemps, il y a le catéchisme du libéralisme, qui a d'ailleurs un peu de plomb dans l'aile, comme on peut le remarquer à bien des égards, hein. Il n'est pas si triomphant qu'il pourrait apparaître.
Il n'y a pas de solution de remplacement.
Oui, et puis ce libéralisme, il est mis en cause. D'ailleurs, parler de néolibéralisme, par exemple, pour un pays comme la France, c'est pas sérieux, n'est-ce pas? Il y a plus de la moitié du des riches, la richesse nationale qui transite par l'État. Donc, c'est pas vraiment le modèle ultralibéral, hein, voilà. Il faut se méfier de ces étiquettes comme ça, simplistes, de ces catéchismes. Et voilà, c'est, se libérer des catéchismes, ça pourrait être un petit peu ma devise, et réfléchir par soi-même. Mais c'est un exercice, évidemment, difficile, parce qu'il faut justement aller à des sources diverses, il faut les digérer, il faut les discuter. C'est pas un exercice qui peut se faire en solitaire, on a besoin d'interlocuteurs, on a besoin de s'écouter, et on a besoin d'être mis en question, et je trouve cela tout à fait excitant. Et comme tu l'as dit, Internet est une invention qui bouleverse le champ des informations et des idées autant que l'invention de l'imprimerie, puisque soudain, les informations peuvent être communiquées tout autour de la planète instantanément.
Il y a tout le côté visuel, par exemple, qui est extraordinaire. On voit
il y a
bien.
Le côté visuel.
En Iran, par exemple, ce qui se passe, chaque fois qu'il y a des images, ça donne une dimension qui est totalement différente. Enfin, c'est bien incontestable.
Sûr. Bien sûr. Alors, c'est une chance extraordinaire que nous avons, parce qu'elle donne des possibilités d'expression à des individus, à des tout petits groupes. Eh bien voilà, cette émission, elle va être diffusée aussi par Internet. C'est une très modeste boutique, à Ligue, soyons francs. Mais voilà, qui a sa raison d'être, justement.
Mais
parce
tu peux l'écouter en URSS, enfin en Russie,
exactement.
Si tu le désires.
C'est extraordinaire. Oui. Tout d'un coup, on découvre que ce très modeste site, bonpourlatête.com, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui l'ont consulté à l'autre bout du monde.
C'est ça, oui.
Des francophones un peu partout autour de la planète. C'est une chance extraordinaire. C'est évidemment aussi un péril dans la mesure, un péril relatif, parce qu'évidemment, cela amplifie de façon extraordinaire certains phénomènes. Prenons par exemple le réchauffement climatique et certains effets. Alors, il est indéniable qu'il y ait un réchauffement climatique. On peut disserter à l'infini, mais d'autres le font assez largement pour qu'on s'en dispense, sur les causes, sur les moyens de lutter contre ce phénomène. Mais revenons à Internet. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a un éboulement provoqué par une rivière en Malaisie, et vous avez 3 morts, vous avez cette nouvelle qui vous saute au nez. Puis alors évidemment, a fortiori, la rivière qui déborde dans le sud-ouest, forcément on en parle beaucoup, et alors peu à peu on a l'impression que le monde est fait des catastrophes, n'est-ce pas, naturelles. Ces catastrophes, elles ont quand même existé auparavant, hein, bien avant le réchauffement climatique, il y avait quand même des éboulements en Malaisie, hein, il y avait de temps en temps des débordements de rivières dans le sud-ouest, hein. Mais évidemment, nous n'en étions pas informés avec cette abondance et avec cette fréquence. Donc notre vision du monde est aussi changée par cette extraordinaire fenêtre multiple qu'est Internet. Donc il faut apprendre à maîtriser ces flots d'informations et mettre un peu d'ordre, de modération, peut-être de raison.
Mais c'est toujours la connerie qui prend toute la place, aussi énormément de place. Je pense, j'étais à l'université à Lausanne en histoire de l'art et un de nos professeurs se plaignait, il y avait eu une catastrophe en Asie sur un site artistique, un site d'art préservé, archéologique, qui avait été détruit, et il n'y avait eu aucun écho dans la presse européenne, y compris dans des journaux de référence comme Le Monde, puisqu'on est francophone, mmh. Et il s'en plaignait, et ça n'a pas changé, en fait. C'est-à-dire qu'on a un flux, quand même, un torrent d'informations insignifiantes qui prennent 90% de la place sur des sujets spectaculaires. Le spectacle règne en maître plus que jamais, et on a effectivement un débat guignoliesque qui prend beaucoup de place, qui prend toute la vitrine, et c'est très difficile d'être informé, d'avoir accès à... C'est très frappant quand on lit la presse française, par exemple, le soir, qu'on consulte tous les sites sur Le Figaro, Libération, Le Monde, etc. La redondance entre eux, le côté extrêmement redondant, le côté extrêmement calibré, le côté assez conforme de tout le monde, il y a peu... Et je voulais dire, toi, en Suisse, tu as été vécu comme étant un gauchiste. T'étais, au début, il t'était stigmatisé sur ton... Enfin, tu rencontrais des oppositions. Quelle était la perception qu'ils avaient de toi en tant que rédacteur en chef de l'Hebdo, et puis ensuite...
J'ai été bien sûr taxé de gauchiste, parce que notamment dans un journal où je travaillais, avant de créer l'Hebdo, avant d'aller à la télévision, dans un journal qui s'appelle 24 heures, j'avais décrit tous les mouvements gauchistes de l'époque des années 70 que tu évoques. Il n'y avait pas seulement les trotskistes.
Il y avait les maoïstes.
Mais il y avait les maoïstes, il y avait les mao-spontex. C'était des maoïstes libertaires. Enfin, on a tout vu dans cette décennie des années 70. Alors, j'ai beaucoup parlé de ces gens, donc j'étais taxé moi-même de gauchiste. Mais bon, après, je suis allé à la télévision, là j'ai fait du grand reportage en Afrique, en Amérique du Sud. J'ai fait aussi un grand voyage avec ma femme photographe, Simone Pliguère, au Vietnam, pendant la guerre du Vietnam. Et à ce moment-là, j'ai été vu comme un journaliste qui s'intéressait au monde. Et je n'ai pas cessé de le faire.
T'étais pro-européen aussi.
Alors j'étais pro-européen dans la mesure où j'étais et je reste persuadé que un réseau fraternel entre les nations européennes est indispensable. Sinon, ces nations se diviseront à nouveau et se referont la guerre. Voilà ce que je constate.
Mais c'est une position minoritaire en Suisse.
Je ne le dirais pas. Les Suisses, évidemment, ont l'impression d'occuper une place à part, et c'est vrai. Ils ont été épargnés des deux guerres mondiales du XXe siècle, et alors ils tiennent beaucoup à leur position particulière. Mais c'est un sujet qui est très débattu, et il y a beaucoup de pro-européens en Suisse. Être pour cet idéal européen, je pense que là, il y a une majorité de Suisses pour cet idéal. Mais il est plus ou moins important dans le cœur de chacun. Et puis alors surtout, il y a des grandes réserves par rapport à l'adhésion à l'Union européenne, n'est-ce pas, qui évidemment a des avantages et bien sûr des inconvénients, des malfonctionnements, et qui sont d'ailleurs largement soulignés à raison. Mais il n'y a pas que des malfonctionnements. Ça me permet de dire par exemple que l'Union européenne a tout de même une très grande réussite. Elle a facilité le passage des anciennes républiques de l'URSS, après la chute du mur, vers des sociétés démocratiques. Alors ces sociétés, bien sûr, il y a des problèmes, il y a des poussées de nationalisme, il y a des interprétations du droit qui sont...
La corruption
pas... La corruption, mais ils n'en ont pas l'exclusivité, la corruption. La corruption, elle existe partout sous des formes diverses. Alors, avant de faire la morale, regardons peut-être aussi chez nous, hein, chacun dans notre pays, hein, avant de donner des grandes leçons de morale. Mais moi, j'ai une grande attirance pour ces pays. Il y a un pays que j'ai beaucoup fréquenté ces dernières années, c'est la Pologne, qui est un pays... plein de vitalité. Ne la ramenons pas à son gouvernement conservateur, catholique, un peu arriéré d'une certaine façon. Il y a une Pologne créative dans tous les domaines, dans le domaine culturel, dans le domaine du cinéma, la littérature, dans le domaine également des technologies nouvelles. C'est un pays très, très dynamique. Ce qui me frappe lorsque je voyage dans l'Est de l'Europe, c'est que je rencontre des gens de milieux différents, et notamment des jeunes qui tous ont des projets. Ils ont des projets, ils rêvent de créer leur start-up, ils rêvent de faire ceci. Ils ne rêvent pas de travailler moins. Et lorsque je reviens à l'ouest de l'Europe, dans mon propre pays, mais en France aussi, le grand souci, c'est, oui, c'est la semaine des quatre jours, ce serait quand même pas mal, hein, si on pouvait, voilà. Je ne porte pas de jugement là-dessus. C'est tout à fait compréhensible. Voilà, travailler moins. On peut se poser la question de ce qu'on fait après du temps ainsi libéré, mais ça, c'est l'affaire de chacun. Mais ce que j'observe simplement, c'est qu'il y a un élan il y a une sorte d'aspiration vers le futur, à l'Est, parce qu'ils savent d'où ils viennent, hein, d'une extrême pauvreté, dont ils sont en train de sortir d'ailleurs. Hein. Alors que nous, on a peut-être la tentation de conserver ce qu'on a. Tu le disais d'ailleurs tout à l'heure à propos de la gauche, qui tient à conserver, pourvu que rien ne change vraiment. Hein.
Ouais, c'est mauvais. Et
lorsque on se trouve en Europe de l'Est, on n'a pas ce sentiment-là. Ils veulent que ça change, que ça continue de progresser. Voilà ce qu'on remarque. Voilà pourquoi je me sens bien lorsque je rencontre des amis, qu'ils soient serbes, qu'ils soient polonais, qu'ils soient tchèques. Ils ont ce feu qui est sur une plus petite flamme à l'ouest du continent. Mais d'ailleurs, ce feu, eh bien, je le trouve aussi en Amérique du Sud, en Amérique latine, pour un monde qui m'est très proche, affectivement. Ça bouge, on veut transformer les choses. Quand j'entends aujourd'hui le président de Colombie, le premier président de gauche élu démocratiquement, d'ailleurs, en Colombie, il pose les problèmes avec une acuité sans tomber dans les formules marxisantes, catéchisantes. Non, il pose les objectifs, il dit voilà, extraction de matières premières, oui on va continuer, mais on doit transformer ces matières premières ici pour avoir une activité sur place, exporter des produits finis. Il a des propositions extraordinairement concrètes. Et par exemple, il accepte, non seulement il accepte, mais il recherche le dialogue avec la droite la plus dure qui le persécutait hier, parce qu'il sait que dans ce pays, le sursaut n'est possible que s'il y a une certaine convergence des forces autour d'objectifs précis. Sinon, ça ne marchera pas, rien ne bougera. On retombera dans des guerres civiles demain ou après-demain. Voilà un chef d'État de gauche qui vraiment a dépassé ces limites, ces barrières que j'évoquais tout à l'heure, pour faire avancer son pays. Mais le faire avancer. Alors, je vous assure qu'en Colombie, hein, la semaine de 4 jours, c'est pas, on n'en parle pas. Hein.
Et donc, si tu veux faire une émission de radio, je te pistonnerai. Tu peux venir faire une émission de radio hebdomadaire à Allegre FM, ça serait formidable. Et tu écris aussi, ça m'a beaucoup intéressé, que la Suisse est passée de la certitude au désarroi.
Oui.
Alors, donc, on a une Suisse des années 70 qui était dans la certitude et une Suisse des années 90 qui est dans le désarroi.
Oui.
Est-ce que tu peux nous raconter ça?
Il y a deux choses majeures qui expliquent ce désarroi. C'est d'abord la question de notre relation à l'Union européenne, puisque nous avons négocié, je ne veux pas entrer dans les détails, c'est assez casse-pied, surtout pour ici en France, mais pendant 7 ans, la Suisse a négocié un accord cadre qui permettait d'avoir un pied dedans, mais de rester quand même un peu dehors, enfin voilà. Et puis le gouvernement, soudain, l'an passé, a décidé qu'on mettait à la poubelle cet accord. Et du coup, nous avons des difficultés qui surgissent dans notre relation avec nos voisins, notamment dans le domaine de la recherche et dans le domaine universitaire. Les Suisses ne sont plus de plein pied dans les programmes de recherche, notamment le programme Horizon de l'Union européenne. Alors tout d'un coup, ça inquiète certains milieux. Et puis, on s'aperçoit aussi qu'il y a des difficultés administratives qui surgissent parce que nous ne sommes pas dans l'Union européenne. Alors, il y a une partie de la Suisse qui veut l'adhésion, très minoritaire. Il y a une partie qui veut, que je crois majoritaire maintenant, qui veut un accord solide de notre voisinage, et une partie que je crois en voie de diminution des souverainistes absolus qui pensent qu'on peut se passer des voisins. Ce qui est une absurdité, moi je le ressens. Je le ressens tous les matins parce que quand en hiver, je vois lorsque des 6h, 7h du matin, je vois sur l'autoroute qui relie la Haute-Savoie au rivage de l'autre côté du Léman, vers Montreux, Vevey, Lausanne, il y a une autoroute qui fait le détour du lac depuis Thonon, Évian, Abondance, depuis ces régions-là. Et je vois des colonnes de phares, ce sont les frontaliers, ces milliers d'hommes et de femmes qui viennent de la, ce qu'on appelle la France voisine.
Qui n'ont pas le droit de dormir en Suisse, en tout cas, c'était comme ça.
Oui, ce n'est plus le cas dans la mesure où s'ils souhaitaient s'établir en Suisse, ils pourraient le faire. Ouais. Mais pour des raisons personnelles que je comprends, ils restent établis en France, envoient leurs enfants à l'école française, restent dans le système français, mais viennent travailler en Suisse. Ils viennent par milliers tous les matins pour faire marcher la société dans les hôpitaux, dans les bureaux.
Vous avez des souverainistes qui voudraient qu'ils ne viennent pas.
Alors, on aimerait restreindre sans cesse les droits de ces voisins qui viennent, non seulement autour du Léman, mais vers Bâle et vers la Suisse alémanique. Restreint ses droits. C'est évidemment scandaleux. Ça n'arrivera pas. Je vous dis, ça n'arrivera pas. On se battra pour que cette solidarité, ce rapprochement entre nous subsiste. Voilà, donc, je crois que cette question du désarroi, c'est bien sûr la question européenne. Et puis, c'est la question de notre position dans le monde. On s'est dit neutre. Vous savez, la neutralité, elle a toujours été un petit peu élastique dans l'histoire de la Suisse. Mais aujourd'hui, notre gouvernement a décidé de s'aligner totalement sur les décisions de l'Union européenne et de l'OTAN par rapport à un simple soutien à l'Ukraine. Heureusement, la Suisse n'envoie pas de munitions et d'armes, mais c'est un soutien total. Alors, il y a des gens qui se posent des questions. Et puis, aujourd'hui, il y a quand même une refondation un petit peu de la redistribution plutôt de la géopolitique qui concerne tous les pays, pas seulement la Suisse, avec l'émergence de la Chine. Qu'est-ce qu'on fait avec la Chine? Les États-Unis sont en train de tendre les relations avec la Chine. À tort ou à raison, c'est un débat, mais c'est un fait. Est-ce que nous, Européens, nous entrons dans ce train-là? Est-ce que nous désignons la Chine?
Est-ce que nous, Suisses? Parce que tu peux faire la différence entre la Suisse et les Européens, là.
Voilà. Mais ça se pose aussi pour les Européens.
Oui,
quelle relation la France doit avoir avec la Chine demain? On n'en sait pas trop. Hein?
Tes positions sont assez proches de celles de Macron, dans les échos qu'on en a, que ce soit sur la Russie ou sur la Chine.
Voilà. Mais il n'y a pas que Macron, il y a toutes sortes de forces, c'est pas économiques aussi, qui s'interrogent. Est-ce qu'on reste en Chine? Est-ce qu'on quitte la Chine? C'est une vraie question. Je dirais que, à cet égard, par rapport à la géopolitique, par rapport à la Chine, par rapport à l'Afrique, qui est aussi en train de changer, par rapport à l'Amérique latine, quelle position voulons-nous avoir? Nous voulons être actifs, mais comment? Sur quel plan? Et on est en train de se reposer ces questions. Donc le désarroi, il n'est pas seulement suisse. Je crois qu'il y a un certain désarroi en France aussi, et dans tous les pays d'Europe à cet égard.
Mais c'est aussi, si on n'a pas le temps, mais c'est sur le passé nazi, les accords économiques du temps de la guerre, enfin, etc., qui a ressurgi dans les années 90. Il y a eu une commission suisse extraordinaire qui a fait un travail absolument fabuleux, qu'on a fait nulle part ailleurs. Oui. Un travail de mémoire colossal.
Il faut dire quand même que la Suisse est, je crois, le seul pays qui a mandaté une commission magnifique, très nombreuse, avec plusieurs dizaines
mais là,
de chercheurs,
une leçon aux autres,
sur plusieurs années,
génial.
Pour établir la vraie mémoire de ce pays pendant ces années sombres.
Merci. Et donc, nous passons l'antenne à Cause Commune. Merci, Jacques, à toi d'être venu. C'était Jacques Pillet. À la semaine prochaine. Merci et bonne semaine.
Merci.